Depuis, je dirais, 3-4 semaines, j'avais le psaume 23 qui m'a accompagné et que je crois avoir récité dans ma tête plusieurs fois par jour. Et je me suis dit que j'allais vous le présenter et en regardant, il fait partie aussi des textes du jour, par hasard. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la paix m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On a tous un passage préféré. Je connais quelques-uns qui ont quelques... Je connais leur passage préféré. Mais le psaume 23 tient une place dans le cœur des croyants depuis 3000 ans, toute particulière, et chez les juifs, et puis chez les chrétiens. Peu importe la culture, la langue... Ces quelques lignes, elles semblent aussi fraîches il y a 3000 ans, où elles étaient fraîches, qu'aujourd'hui, pour nous, dans notre expérience. Parce que ces quelques lignes, elles nous parlent individuellement. Pour certains, c'est un chant qui est doux et précieux, et je voyais quand je lisais le texte, certains le dire par cœur en fermant les yeux, comme on récite une comptine qui aurait bercé notre enfance. L'Éternel est mon berger, et c'est une douce pensée. C'est un repos pour une âme fatiguée. Pour d'autres, il est le texte qui nous fait ressentir cette tendresse toute particulière que peut avoir Dieu pour l'humanité. Mais pas pour l'humanité, mais pour moi, l'Éternel, il est mon berger. Et peut-être que ce texte nous en dit long sur le cœur du roi David qu'il a écrit, qui a composé ce psaume. Qui était là autour de Marie et de Joseph ? Lorsqu'elle a accouché et qu'elle a eu Jésus, il y avait là les rois qui sont venus de loin, les mages avaient des cadeaux, les rois mages, pour acclamer le roi des rois qui venait dans ce monde. Et puis il y avait là quelques bergers qui avaient reçu cet appel des anges qu'un sauveur vous est né, un fils vous est donné, et ils ont entendu cet appel, et ils ont cherché, et ils ont vu l'étoile, comme les mages l'avaient vu, et ils sont venus acclamer le berger des bergers. Dans cette exhortation, qui sera un petit peu une étude biblique, trop succincte, parce que le temps nous en manque, sur chaque phrase on pourrait s'apesantir, mais... Je crois qu'il faut voir l'ensemble du texte. Je voudrais vous dire quelle relation, quelle expérience l'Éternel, le Créateur de toutes choses, l'Éternel, c'est un nom extraordinaire, l'Éternel. Celui qui a créé les étoiles, celui qui a créé la terre, celui qui a créé tout ce qui nous entoure, celui qui a créé chacune de mes cellules, le tout autre, mais aussi celui qui se veut si proche. Quelle relation il nous propose? Quelle relation il te propose? L'Éternel est mon berger. Il y a de nombreux passages dans la Bible, dans l'Ancien Testament, qui présentent Dieu comme le berger qui fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera ses agneaux et il les portera dans son sein. Ésaïe 40, 11. C'est beau quand on voit un berger porter une petite brebis. Et c'est cette image que le peuple d'Israël avait de Dieu, le berger qui fait paître son troupeau. Quoique Dieu ait créé, il entre en relation avec sa création. Il n'y a pas de Dieu créateur qu'on ne connaît pas. Le Dieu créateur, il est venu, il est là et il veut rentrer en relation avec sa création. Il a créé l'homme, il a créé homme et femme, et il se promenait dans le jardin avec eux. De tous les noms qu'il porte pour manifester sa relation avec l'homme, c'est bien celui de berger qui manifeste plus peut-être sa tendresse. Et le roi David le savait, nous qui connaissons peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont fait ce travail de berger, mais moi pas, et je peux juste imaginer ce que c'est. Mais pour le roi David, il avait été berger dans son jeune temps. Il savait ce que c'était qu'un berger. Il connaissait cette relation tendre et particulière qu'un homme peut avoir avec son troupeau. Pas juste un troupeau. Non, chaque brebis, il les connaît par leur nom. Parce qu'il les a fait naître. Le troupeau, c'est sa richesse. Non pas seulement une richesse matérielle, mais elle est aussi émotionnelle. Et cette relation extraordinaire que l'Éternel développe avec nous, elle est manifestée en Jésus-Christ. Et Jésus se présente en Jean chapitre 10 comme le bon berger. Et au verset 11 du chapitre 10, où il parle, c'est de ce qu'est un bon berger par rapport aux autres bergers. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et l'apôtre Pierre, lui, l'appelle le berger et le gardien de nos âmes en 1 Pierre 2, 25. Mais pourquoi un berger? Lorsque David est devant Saül, vous savez, Saül, ce roi qui a été choisi parce qu'il était grand, il dépassait d'une tête tous les autres. Ça devait être un sacré gaillard, Saül. Et il est là avec son armée, et il y a là un géant philistin dans la vallée qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël et qui insulte son peuple. David est envoyé par son père Isaïe pour apporter de la nourriture à ses frères qui sont au combat. Et David arrive là, dans un statu quo, les deux armées se regardent, et il y a là un grand géant dans la vallée qui défie le peuple d'Israël. Un seul qui vienne là et qui me combatte. Pas un seul. Même Saül n'osait descendre dans la vallée pour combattre. Et le jeune David, trop jeune pour combattre, qui est là en visite, voit cela et il est défait. Vous connaissez cette histoire, vous l'avez entendue à la classe des enfants. Mais à chaque fois que je relis ce texte, ça me fait, ça me provoque des frissons. 1 Samuel 17. Écoutez ce que dit David, qui se présente devant Saül et qui dit « Moi, je serai celui-là, qui va descendre combattre. » Saül dit à David « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de ton père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais,
Je l'arrachai, j'arrachai la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, et que l'Éternel soit avec toi. » Lorsque j'étais enfant, je frémissais pour d'autres raisons aussi. Quand j'étais sous mes couvertures et que j'avais peur du noir. J'avais peur du meumeu sous le lit. Et c'est encore très frais dans ma tête, parce que ça a duré longtemps. Peut-être plus longtemps que de raisonnable. Et je m'en souviens très bien, parce que ces sentiments de peur qui m'assaillaient étaient terribles. J'en ai déjà parlé, j'osais même pas me déplacer d'une pièce à l'autre pour traverser une zone noire, tellement j'avais peur. Et lorsque j'étais tout seul dans mon lit, je priais. Et je priais pour que Jésus me protège. Lui, le bon berger qui donna sa vie pour moi. Et peut-être que c'est cette expérience-là qui m'a fait vivre ma vie de prière enfant. Et je m'endormais dans cette prière-là, tellement c'était la seule chose qui pouvait m'apaiser. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Il raconta un jour cette parabole, voyant le regard méprisant des chefs religieux sur ceux du peuple qui s'étaient corrompus, qu'on appelait les publicains, les collecteurs d'impôts, les gens vivant dans le péché. Dans Luc chapitre 15, versets 4 à 7, aussi un texte que vous connaissez très bien. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis qu'il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sur le pignon de la maison de Richard et Marie, il y a une statue qui représente Jésus avec un vêtement, une tunique, et qui est les bras comme ça, comme accueillant. Et on ne la remarque pas, vous ne l'avez probablement jamais vue. Et elle est très haut sur le pignon. Et Thaddée, un jour, c'est Richard qui me racontait ça, Thaddée voit cette statue et il regarde et il dit « Pourquoi nous, on n'a pas un Batman sur notre maison ?» Mais j'aime bien. J'aime bien parce que Jésus, c'est mon héros. C'est notre héros. C'est notre Batman, si vous voulez, ou Spider-Man. Mais c'est celui qui nous sauve. C'est celui qui nous fait frémir. C'est le bon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je sais qu'avec lui, je ne manquerai jamais de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Ah, dans le repos. Dans notre monde trépidant, dans la vie insensée parfois qu'on mène, et je pense à parfois, on n'a même pas le temps de manger parce qu'on travaille et puis on ne prend pas le temps de s'asseoir. Le premier souci du berger, c'est de donner du repos, de la sécurité pour ses brebis. Chercher sa nourriture, c'est le travail du berger. Combien de repas j'ai sauté parce que j'avais trop de boulot. Combien de temps de prière j'ai raté, de repos, parce que j'avais trop de travail. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, alors que les disciples reviennent de mission, et ils sont tout exaltés, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient enseigné, et Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et l'évangéliste ajoute: car beaucoup de personnes allaient et venaient et ils n'avaient pas même le temps de manger. À vous qui êtes fatigués et déçus, Jésus dit: venez à moi et je vous donnerai du repos. Et on a tous besoin de ce repos en Christ. De nous arrêter plus souvent dans nos activités quotidiennes, de prendre du repos, non pas « je vais me faire une bonne télé », non pas « bon, je vais m'écouter une bonne musique », mais du repos auprès de Jésus. Malheureusement, je prends trop souvent ce temps de repos comme un devoir. C'est bizarre, hein ? Je ne sais pas si vous vivez parfois les mêmes choses. Il faut que je prie. Il faut que je m'arrête, que je prie. Et non pas comme un plaisir, quelque chose. Oh là là, je vais m'allonger, je vais me reposer, je vais m'asseoir. Je vais aller dans mon petit coin de méditation. Je vais être bien avec mon Seigneur. Et il y a quelque chose qui ne va pas dans ma conception de ce moment-là. Et je me souviens qu'enfant, lorsque le moment était venu de se mettre à table, c'était un moment particulièrement difficile pour moi. Parce que je faisais partie de ces enfants qui un peu difficiles et qui ne mangeaient pas beaucoup. Et ma mère, qui aime faire la cuisine, en fait qu'elle n'aime pas, mais faire la cuisine, mais qui la fait très bien, elle s'est lamentée devant moi, qui laissait mon assiette, qui jouait pendant une heure, montre en main, avec les légumes et la viande. Il y a aujourd'hui, quand des parents me disent « vous ne pourriez pas donner un médicament à mon enfant pour qu'il mange ?» Je leur dis « mais moi, je faisais partie de ces enfants-là. » Et je dis « vous ne trouvez pas que c'est quand même terrible que manger, ça devienne pénible, que ce soit plus un plaisir ?» Manger, ça devrait être quelque chose d'agréable. Ce n'est que lorsque j'ai eu faim et que la seule chose que j'avais à manger, c'était ce qu'on me présentait, que j'ai commencé à apprécier la nourriture. Tout autre que, bien sûr, les casse-croûtes et le chocolat. C'est peut-être la même chose avec la prière. Peut-être qu'il nous faut avant tout commencer à avoir faim. Faim de notre Seigneur, faim de sa présence, faim comme David avait faim du berger de l'Éternel, qui est son berger. Pas le berger du troupeau, du berger du peuple, non, c'est mon berger à moi. Sa présence qui rassasie, sa présence qui abreuve, un rafraîchissement. Il me conduit près des eaux paisibles. À la Samaritaine qui puisait de l'eau, Jésus dit: quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle, une source d'eau inépuisable. Et j'espère que vous avez soif ce matin, soif de cette grâce-là que Jésus annonçait à la femme samaritaine. Soif du pardon, soif de l'amour, soif de la restauration que Dieu veut faire pour nos âmes. Car il restaure mon âme. Sa présence donne un sens à ma vie. Il fait de moi ce pourquoi j'ai été créé. Il fait de moi ce pourquoi je suis né. Il retire ma corruption. Il fait de moi ce que je devrais être, dans le chaos que me semble être parfois l'existence qui m'entoure. Cette grâce, bien sûr, elle s'opère maintenant et elle s'opère toujours. John Newton, vous connaissez probablement ce nom ou peut-être pas, c'est celui qui a composé Amazing Grace, que vous connaissez. Il s'est converti et en 1760, il a composé ce chant. C'était un ancien négrier, un esclavagiste, qui transportait dans son bateau des centaines d'esclaves, voire il en a transporté des milliers, et qui voyait un quart, voire un tiers de sa cargaison, comme il l'appelait à l'époque, périr dans le bateau. Repenti, il écrivit juste ce premier couplet que je vous traduis, « Merveilleuse grâce, au son si doux, qui sauva le misérable que j'étais. J'étais perdu, mais je suis retrouvé. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il me conduit. Il me conduit. » C'est une douce pensée que de penser que l'Éternel nous conduit. Le Seigneur nous conduit. Proverbe, chapitre 3, verset 17, nous dit que ces voies sont des voies agréables et tous ces sentiers apportent la paix. Les voies de la justice. Quel sentiment de paix extraordinaire on peut ressentir lorsqu'on se sent à sa place. Lorsqu'on se dit « je suis à ma place dans mon travail, je suis à ma place dans ma famille, je suis à ma place dans ma communauté ». Mais c'est lui seul qui nous donne notre place. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, nous commande le Seigneur dans le sermon sur la montagne. Et il le dit après nous avoir parlé des inquiétudes qui peuvent nous polluer la vie. Et nous pollue la vie toujours. Et ce n'est pas les inquiétudes de qu'est-ce que je vais faire comme repas à Noël, ou j'ai un cadeau à faire et je n'ai pas encore fait, et là pour le 24, il faut que je me presse. Non, c'est les inquiétudes, mais qu'est-ce que je vais bien manger maintenant? De quoi vais-je être vêtu? Non, ne vous inquiétez pas de cela, dit le Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez la justice de Dieu. Comment, en tant que chrétien, exercer cette justice que l'on trouve en Dieu? Et je regardais le roi Lion en me disant que l'autorité, vous connaissez le dessin animé, peut-être que vous ne l'avez jamais vu, mais c'est un beau dessin animé. On chante, la chorale chante quelques chants de la comédie musicale Le Roi Lion. L'autorité de Mombasa, le lion, le père de Simba, je le regardais comme une autorité de justice. Il garantissait par sa force cette justice en regard d'un Simba qui, lui, cherchait à éviter le conflit à tout prix. Simba a peur d'affronter sa réalité avec les erreurs du passé. Il est écrasé par une culpabilité terrible, celle d'avoir contribué à la mort de son père. La justice sans force est impuissante. La force sans la justice, elle est tyrannique. La justice sans la force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Et la force, sans la justice, elle est accusée. Il faut mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, et que ce qui est fort soit juste, et cela n'est pas de moi. C'est Blaise Pascal qui écrivait cela. C'est écrit en haut de la faculté de droit, pas ici, mais quand la faculté était au pont de bois, que la force soit juste et que la justice soit forte. Le modèle de justice au Moyen-Âge, c'était la chevalerie. Un chevalier, était pieux, vertueux, et il avait pour principale activité de protéger la veuve, l'orphelin, d'assurer la justice pour les plus humbles, de garantir le droit par la puissance de son armure. Mais les chevaliers, ils ont asservi ce qu'ils devaient servir pour diverses raisons, toujours bien personnelles. Ils ont oublié qu'ils étaient d'abord serviteurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment ? En devenant humble. Hébreux 11, 7 nous dit que nous sommes héritiers de la justice qui s'obtient par la foi. Jacques 3, 18, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Après les pâturages, vient la sombre vallée. Et combien d'entre nous ont traversé cette sombre vallée ? Vous avez déjà traversé cette sombre vallée. Moi, j'ai déjà traversé cette sombre vallée. Cette sombre vallée prend la forme de la maladie, prend la forme d'un handicap, de la souffrance d'un proche, de conflits, de persécutions, d'un deuil. Combien d'entre vous m'ont montré l'exemple lorsqu'ils traversaient cette sombre vallée, lorsqu'ils étaient dans le deuil. Je me souviens, et d'avoir appelé Richard à la mort d'Élise, on en a parlé récemment, et tout le monde priait pour la famille, tout le monde priait pour la famille. Et j'appelle Richard, il était dans un champ, me dit-il au téléphone. Il dit, je me permets, Richard, de partager. Et il me dit comme ça, je me sens fort, Pierre, je me sens fort. Je me dis, mais il délire. Mais je me dis, c'est mon frère, je le connais. J'ai confiance. Le Seigneur est avec lui. Le Seigneur vit quelque chose avec lui. Beaucoup d'autres ici présents ont traversé cette sombre vallée et ont été des exemples pour moi, parce qu'ils l'ont traversée dans la paix. Parce que dans cette sombre vallée, le Seigneur est avec nous, certes, mais on ne le voit pas. C'est juste sa houlette, son bâton. Une houlette, c'est le truc qu'on voit au-dessus du bâton. Et ça se tient là-haut. La sombre vallée, elle est sombre. On est dans tout ce qu'on voit, c'est qu'en tant que brebis, on voit juste ce bâton et on suit le bâton. Quand il y a des patients qui viennent me voir et qui sont complètement dans la dépression, je leur dis, vous êtes au fond du puits, là il fait tout noir. Vous ne voyez plus rien, c'est tout à fait ça. Plus d'espoir, plus de lumière, rien, il n'y a aucune possibilité de sortie. Et je dis, la seule manière de fonctionner dans ces moments-là, il n'y a qu'un seul mot qui fonctionne, et c'est un mot terrible, je suis désolé. Ça s'appelle la discipline. Les gens me regardent avec des yeux tout ronds. La discipline, de quoi tu me parles, la discipline ? Je dis, il faut fonctionner à la boussole. On ne voit plus où on va. Donc, les choses qu'on a à faire, il faut les faire. Il faut les faire. Il faut se plonger dans la prière. Même si on n'a pas envie, on ne sait pas, mais il faut y aller. Il faut ouvrir sa parole, se laisser conduire par ce bâton, cette houlette. Et il faut le faire. Il faut régler ses factures. Il faut se mettre en ordre avec les gens qui nous entourent. Il faut le faire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. ta houlette et ton bâton me rassurent. » L'apôtre Paul a vécu des choses terribles aussi, lui, lapidé à plusieurs reprises, laissé pour mort. Et il écrit ceci en Romains chapitre 8, verset 28, « Que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. » Et il arrive que pour arriver dans des pâturages qui sont plus propices pour nous comme brebis, il nous faille traverser des vallées obscures où nous amène notre berger, des difficultés. Il faut garder confiance. Parce qu'il dresse une table devant nous, face à nos adversaires. Cette table, c'est un banquet avec plein de bénédictions. C'est curieux cette parole. Il dresse une table devant nous, face à nos adversaires. On peut penser à cette table-là, le sacrifice de Jésus, qui est une bénédiction extraordinaire. Ce pain qui représente son corps et ce vin qui représente son sang qu'on peut partager ensemble, qui est un don extraordinaire qui dépasse notre compréhension. Mais il y a toutes ces bénédictions que nous pouvons recevoir à côté. Ces dons dont nous ne percevons même pas la valeur. Les frères et les sœurs, la communauté qui nous anime. Ça, c'est un cadeau extraordinaire qui est placé face à nos adversaires. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, mes brebis. Ça, c'est une réalité, une bénédiction que nous recevons. L'amour que nous partageons les uns avec les autres. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est une espérance de David, c'est une promesse qui nous est faite. Et David, ce n'était pas quelqu'un de tout à fait spécial dans sa vie. Il a été adultère, meurtrier, un homme de guerre, violent. Il a tué de nombreuses personnes. Mais finalement, Dieu dit « Voilà un homme selon mon cœur. Quel est votre désir ce matin? Est-ce que ce désir-là vous anime ?» Oui. J'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. C'est notre espérance. J'espère que nous avons tous faim et soif du Dieu vivant. Qu'il vienne, il est en chemin et c'est ce que nous célébrons. Il est venu et il vient chercher son Église. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons recevoir cette parole, nous voulons recevoir ce psaume dans nos cœurs. Nous voulons, Seigneur, avoir ces sentiments que David avait. Et par ton Esprit Saint, Seigneur, ouvre nos cœurs, notre compréhension à tout cela. Ouvre notre faim, notre appétit de toi. Notre soif de ta présence, de ta grâce. Seigneur, tu as prévu des bénédictions pour nous ce matin et nous voulons les recevoir. Bénédictions pour la communauté, mais bénédictions toutes particulières pour chacun d'entre nous. Esprit Saint, fais-nous découvrir ces dons merveilleux qui ont été placés là pour nous. Par le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.